Voilà, donc on continue avec le thème aujourd'hui. Il y a quatre parties de ce thème. On arrive à la troisième. Et puis quand on aura fait la quatrième, on va refaire première, deuxième, troisième et quatrième, deuxième fois. C'est prévu. Donc voilà, la troisième, c'est combattre le bon combat aujourd'hui. Donc, petite révision. Et j'ai dit l'héroïsme au quotidien. C'était les deux textes que l'on avait étudiés jusqu'ici. Le premier, c'est adorer Dieu aujourd'hui. Avec ce verset, ce chapitre d'Ésaïe 38, le vivant, c'est celui-là qui te loue comme moi aujourd'hui. Bon. Bien sûr, on sait avec le Seigneur qu'auprès du Seigneur, après la mort, on va aussi continuer à le louer. Mais là, on parle de notre vie sur terre. C'est le vivant sur cette terre qui glorifie Dieu en le louant à tout moment. À tout moment. Et je crois que j'avais dit, à ce moment-là, j'avais une fois entendu le témoignage de quelqu'un, pour ne pas oublier de louer le Seigneur, qui essaie de penser à lui et lui dire un petit mot de remerciement chaque fois qu'il changeait d'une pièce à l'autre, ou d'aller dans la voiture, ou sortir de la voiture, etc. Comme petit, chaque porte en quelque sorte, c'était, voilà, le petit rappel. Le deuxième, c'est la confiance à Dieu. Pour que tu mettes ta confiance en l'Éternel, je vais t'instruire toi aussi aujourd'hui. Proverbe 22. J'ai dit le danger de vivre dans le passé avec la nostalgie ou à l'avenir, tout ira bien quand je serai, etc. Alors que finalement, on fait confiance à Dieu aujourd'hui. Et puis, le troisième sujet, c'est combattre le bon combat aujourd'hui même. Eh bien, ça n'a pas loupé. Cette semaine, on a eu une semaine de combat. Parce que quand on prépare un sujet, c'est souvent comme cela. Alors, par rapport à cette question d'adoration, de confiance et de combat, une petite promesse avant d'aller plus loin, c'est dans Éphésiens 6, 19, « Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Fortifiez-vous dans le Seigneur. » Qu'est-ce que j'ai... C'est bien ? Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Et maintenant, un autre texte. On va regarder dans Hébreux 3, parce qu'à la fin de Hébreux 3, il y a ce verset 13, qui est pratiquement l'aboutissement du texte que l'on va regarder. Je l'ai mis à la fois dans la version seconde et dans la version du sommaire, pour bien montrer qu'on est dans la pensée d'aujourd'hui. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Dans le sommaire, mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui. Bah, quand est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, en fait? C'est toujours aujourd'hui. C'est aujourd'hui, aujourd'hui. Et demain, quand on y sera, ce sera aujourd'hui. Donc forcément, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, il faut s'exhorter, s'encourager, face à la séduction du péché. C'est pour ça que c'est un combat. Et on va regarder ensemble ce texte. J'ai en fait changé à la dernière minute dans mes notes, mais ce n'est pas sur le PowerPoint, parce qu'en fait c'est Hébreux 3, 5 à 14, en fait. Hébreux 3, 5 à 14. Je vais vous le lire. « commence au verset 5, qui est en fait un résumé des versets qui précèdent. Alors, on aurait pu commencer au début du chapitre, mais le verset 5 le résume déjà. Pour Moïse, il a été fidèle, ou en ce qui concerne Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ est fidèle comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération. J'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. On le connaît jusqu'au verset 15, pendant qu'il est dit, il revient, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Donc on a cette comparaison entre Moïse et Jésus. Et Moïse est le serviteur sur la maison d'Israël, Jésus est le fils. Et Jésus est notre chef, il est fidèle sur la maison. Il est fidèle. Et ce mot-là fait contraste avec la suite, parce que le peuple d'Israël n'était pas fidèle. Justement, c'est ça la différence. Jésus est fidèle, le peuple ne l'était pas. Et là, du verset 7, la deuxième partie du verset 7 jusqu'au verset 11, c'est toute une citation tirée du psaume 95, c'est pratiquement pareil, hein, parce que c'est une citation, et qui est un appel. Le psalmiste fait un appel au peuple d'Israël en disant, donc aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme... Et donc, il renvoie à cette histoire de la traversée du désert. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la traversée du désert? Ils ont contesté Moïse. Ils ont contesté Dieu. Ils étaient dans l'esclavage, et puis, au milieu de la traversée du désert pour aller sur la terre, dans la terre promise, ils ont commencé à dire, ah oui, mais là-bas en Égypte, c'est pas si mal que ça. J'ai lu deux versets dans les Nombres. Ah, nous nous souvenons des poissons que nous mangeions en Égypte et qui ne coûtaient rien. C'est pas aussi sûr que ça d'ailleurs que leur mémoire était aussi exacte. Nous nous souvenons des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Mais maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Donc c'est comme le coriandre, poulette blanche qui mangeait. Et pourtant Dieu était fidèle. Ils avaient quoi manger pour traverser le désert. Et ils allaient vers la liberté. Ils allaient vers leur propre pays. Mais dans leur tête, dès que les difficultés venaient, ah, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Et ça, c'est vraiment le danger. Je vais revenir à ça tout à l'heure par le mot séduction. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait la révolte. Donc, j'ai mis trois choses, hein, les trois vont ensemble. La révolte, ils ont tenté Dieu. Dans le psaume 95, ils disent à Massa et à Meriba, qui fait référence à un événement dans le désert, où ils ont contesté Dieu parce qu'il n'y avait pas d'eau. Mais puisque le mot Massa veut dire tentation et Meriba, querelle, dans la traduction en fait du Nouveau Testament, ils ont mis carrément la révolte et la tentation en fait. Ils ont enlevé le mot pour donner son sens en fait, le sens du mot en hébreu. Ils ont contesté Dieu, ils avaient donc forcément un cœur qui s'égare. Et comme le texte dit, ils n'ont pas non plus connu les voies de Dieu. Et leur cœur s'est endurci, petit à petit. Petit à petit. Au début, on avait de la joie à suivre le Seigneur, et puis petit à petit, on commence à fonctionner autrement. Et je vais revenir à cela. Donc, le verset 12, c'est la mise en garde. C'est pour ça que c'est le bon combat. Le verset 12, la mise en garde. Prenez donc, frères, que personne n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Que l'on se détourne d'une idée philosophique, en quelque sorte. Que l'on se détourne d'un parti politique. Que l'on se détourne de son travail. Pour dire, j'en ai marre de cette société, je vais acheter une petite cabane dans les Pyrénées. Bon, quand on détourne comme ça, ok, pas de problème. Mais quand on se détourne du Dieu vivant, on n'est pas dans le même registre. On n'est pas dans le même registre. C'est pas quand on se détourne de l'Église, de Paris Vili ou de notre Église, c'est pas ça. Le danger, c'est de se détourner de Dieu. Donc ça, c'est un enjeu beaucoup plus important. Alors que faire ? On a déjà lu ce verset 13 au début, et je le relis. Exhortez-vous, ou le sommeur dit encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et c'est ça le problème, la séduction du péché, le péché qui séduit malgré nous. La séduction. J'ai cherché dans le dictionnaire comment on définit. Et c'est marrant parce que le dictionnaire même disait que la séduction est une forme de tentation. Et c'est ça, au fond. Le dictionnaire avait bien raison. La séduction, c'est une forme de tentation, une invitation à commettre un péché. Et le mot même, dans son étymologie, donc le sens de ce mot, l'étymologie, c'est détourner du droit chemin. Donc, on détourne du droit chemin. Et le problème, et c'est pour ça que ça fait plusieurs fois que je dis je vais revenir à ça, c'est que en se détournant du droit chemin, on vit comme, et c'est une expression que quelqu'un m'a dit cette semaine, on devient un athée fonctionnel. Ça veut dire qu'on n'est pas athée parce qu'on croit que Dieu est là, mais en fait, dans sa façon de vivre, on ne fait jamais référence à Dieu. Donc on est comme un athée fonctionnel. On n'adore plus, on ne fait plus confiance, et puis le combat, on dépose les armes. Le problème, et c'est sûr, c'est que à partir du moment où on parle de la séduction du péché, que chacun de nous peut avoir des points faibles différents. Et quand il y a, puisque c'est un combat, on a un adversaire. Et cet adversaire va chercher ce point faible. Je me suis permis de faire une petite liste de choses. La jalousie. Parfois, c'est très séduisant. C'est pas juste. L'autre n'a pas connu ce que j'ai connu, ou l'autre a obtenu ce que je veux. Donc une certaine jalousie. Peut-être que quelqu'un d'autre ne sera pas séduit par cela. Ça dépend de ce qu'on a vécu. On est la totalité de ce qu'on a vécu. Et peut-être il y avait des choses dans notre enfance ou notre jeunesse qui nous a poussé dans ce sens. Je me souviens quand j'étais à Nancy, une dame qui n'était pas convertie mais qui commençait à venir à l'église. Donc elle commençait à chercher du, on va dire. Et puis un jour, elle arrive à l'église, était furieuse en disant que tu m'as vu en ville, David, et tu as exprès détourné le regard pour ne pas me saluer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est pas dans mes habitudes. Mais en discutant avec elle, je me suis rendu compte que, en fait, c'est ce qu'elle fait, elle. Elle avait cette habitude. Si elle voulait bouder, en quelque sorte, de détourner, ne pas saluer quelqu'un. Donc, elle a imaginé, peut-être qu'elle m'a vu, je n'ai pas vu, hein, ça peut arriver. Donc c'était sa faiblesse en quelque sorte. Donc il faut se connaître soi-même pour connaître quelles sont sa faiblesse. Donc la jalousie, ça peut être une chose. La colère. Les choses ne vont pas comme on veut. On pique une petite colère. Elle n'ose pas me regarder. Elle sait que... Là, je vais lutter. Parfois. Il y a rien comme ça. Mais bon, je lutte. Quand les choses ne vont pas comme je veux, c'est une lutte, c'est un combat. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être s'apitoyer sur son sort. Pauvre de moi. Donc, c'est aussi une façon, c'est la séduction du péché, de s'apitoyer sur son propre sort. Donc c'est très proche, en fait, de se plaindre. Je pense que se plaindre est un péché qui est très proche d'ailleurs de ce que le peuple d'Israël a vécu dans le désert. Les murmures, hein, c'est se plaindre. Certains disent que c'est un péché mignon en France. On râle, c'est tout. On se plaint. Ça peut être l'immoralité. Et parfois, en discutant avec des jeunes, je comprends que c'est pas aussi évident que ça. Et aujourd'hui, on est tellement facilement axé à toutes sortes de pornographie par Internet, etc., que c'est aussi quelque chose qui peut être une séduction. Ça peut être aussi la médisance. On parle mal des gens. On bavarde. Alors, c'est aussi un petit péché mignon. J'étais frappé une fois sur mon agenda, tous les jours, j'ai un petit proverbe, un petit dicton en bas de page. Et un jour, c'était un peu ironique. C'était, mais de quoi donc parlait Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Parce qu'il n'y avait personne à critiquer. Ça enlève une grande partie des discussions des gens, hein, quand on écoute autour de nous. Hein. Personne n'a critiqué. Et c'est dangereux parce que ça fait des divisions parmi les gens. Ça peut être aussi l'impatience. On est impatient. Et l'impatience, il faut du temps pour l'apprendre. J'ai jamais prié, Seigneur. Rends-moi patient, mais vite. Parce que ça s'apprend avec le temps. Mais c'est une séduction aussi. Ou bien, ce que le Nouveau Testament appelle une idolâtrie même, le désir de posséder. Donc, certains de ces péchés se rejoignent. Donc on peut être jaloux parce que l'autre a un meilleur instrument, enfin un meilleur... iPad ou je ne sais pas comme moi, ou que parce qu'il a une meilleure voiture, une meilleure situation, etc. Donc on veut...
Nous sommes donc bien dans le combat. Un combat aujourd'hui. Et je suis assez convaincu par l'approche d'alcoolique anonyme dans ce sens-là. Un membre des alcooliques anonymes ne jure jamais de ne plus boire. Il ne fait jamais de promesse qu'il engagerait à ne pas boire demain. Le membre des AA, donc alcoolique anonyme, reconnaît que son plus grand problème est de rester abstinent dans le moment actuel. Les 24 heures d'aujourd'hui sont la seule période de sa vie où il peut accomplir quelque chose en regard de son problème. Hier est disparu, demain n'est jamais là. Mais aujourd'hui, se dit-il, aujourd'hui, je ne prendrai pas un verre. Donc prenons modèle sur cette approche. Aujourd'hui, exhortez-vous les uns les autres, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Alors, que faire? En conclusion, je dirais tout simplement ceci. Nous ne sommes pas seuls dans le combat. D'abord, au verset 13, nous voyons que nous devons nous exhorter, ou selon la version du sommeur, nous encourager chaque jour. Nous avons besoin de cet encouragement mutuel. Nous avons besoin de nous aider les uns les autres. Parfois, il s'agit de voir quelqu'un pour demander sa prière ou d'aller discuter avec quelqu'un. On n'est pas obligé de tout dire à tout le monde, mais on a vraiment besoin les uns des autres. Et la deuxième chose, selon le verset 14, nous sommes devenus participants de Christ, ou comme le semeur le dit, associés au Christ. Nous avons son aide. Nous vivons de sa grâce, de son pardon, et comme nous l'avons dit au début de ce message, nous devons puiser en lui notre force. Alors, aujourd'hui, le combat. Oui, aujourd'hui, nous allons adorer Dieu. Oui, aujourd'hui, nous allons lui faire confiance. Et aujourd'hui, avec son aide, nous allons combattre le bon combat.